Bonjour tout le monde, on est de retour avec vos informations locales. Pénélope, ce matin tu reviens sur la grippe aviaire. On en avait discuté la semaine dernière un peu dans une revue de presse. Puis on était curieux, on voulait plus d'informations.
Alors. Oui, c'est ça exactement. Il y avait certaines questions laissées sans réponse, là, si on veut. Et j'ai donc voulu creuser un peu plus sur l'impact de ce virus sur un territoire comme la Basse-Côte-Nord, surtout en pleine période de chasse actuellement. Notez d'abord que Santé Canada n'a pas voulu m'accorder d'entrevue, mais j'ai quand même obtenu des réponses du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, donc le MFFP. Remettons d'abord en contexte, là, on a commencé à détecter l'influenza aviaire H5N1 au début du mois d'avril 2022, donc le printemps dernier, et plusieurs décès d'oiseaux sauvages causés par le virus ont été documentés au Québec. Comme ces décès ont été constatés dans la plupart des régions et, bon, considérant l'amplitude des mouvements naturels des oiseaux, on peut tenir pour acquis là, que le virus s'est répandu dans l'ensemble des régions du Québec, voire même du pays. De plus, avec la migration automnale des oiseaux sauvages, il est possible qu'on en observe plus. C'est pourquoi on continue de surveiller la grippe aviaire ou l'influenza aviaire chez les oiseaux et des spécimens sont récoltés régulièrement chaque semaine.
Puis, est-ce qu'on a observé des carcasses d'oiseaux possiblement liées à la grippe aviaire sur la Basse-Côte-Nord?
Il y a officiellement un cas suspect près de la Romaine, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul. Et à cet effet, j'ai moi-même vu un oiseau mort sur l'île, une île cet été de tête à la baleine. Bon, je ne suis pas experte en la matière, je ne peux pas dire s'il y avait un lien avec la grippe aviaire ou pas, mais ça montre à quel point le recensement des décès est complexe, en fait.
Ouais.
Et bon, est-ce que tu le dis aux autorités? Est-ce que celles-ci enverraient vraiment là, des équipes ici par avion pour analyser la chose. Bref, c'est un peu compliqué. Mais pour avoir le portrait le plus récent des détections du virus, Daniel Labonté, relationniste de presse pour le MFFP, m'a invité à consulter le site web du Réseau canadien pour la santé de la faune, influenza aviaire hautement pathogène, oiseaux sauvages. Je décline le nom du site Internet, mais c'est au ARCGIS, donc ARCGIS.com. En fait, c'est franchement intéressant. Là, James, on y retrouve tous les détails sur les carcasses retrouvées en lien avec la grippe aviaire, qu'il s'agisse de cas suspectés ou confirmés.
Ah ouais.
Et il y en a en ce moment partout au Canada, 1446. Et c'est là que j'ai pu voir là, qu'il y en avait un à la Romaine. C'était un goéland. Et il y en a aussi trois près de Havre-Saint-Pierre, dont un oiseau de mer, un petit pingouin et un éider, donc un moyac. Monsieur Labonté rappelle que le nombre d'oiseaux indiqués sur cette plateforme n'est qu'un sous-échantillon des oiseaux sauvages infectés par le virus. Il souligne en effet là, que l'absence de mortalité dans une région ou un secteur ne signifie pas que le virus de l'influenza est absent.
Puis, une bonne question, ben, qu'est-ce qu'on peut faire quand on retrouve un oiseau mort ou malade?
Les gens peuvent signaler la présence d'un oiseau mort ou malade au MFFP au 1-877-346-6763. Évidemment, on suggère d'éviter d'approcher et de manipuler ces oiseaux en attendant les directives. À la suite de l'appel, en fait, là, M. Labonté explique que selon des critères, certains spécimens pourraient être récupérés pour analyse afin de documenter les événements de mortalité et les espèces sauvages qui sont, disons, plus sujettes à décéder des suites de l'infection. Si l'analyse n'est pas requise, ben, des conseils sont donnés à ce moment-là pour se départir de manière sécuritaire de la carcasse. Et fait à noter, dans les lieux où l'influenza aviaire a déjà été confirmée, ben, le signalement et l'analyse de spécimens dans le cadre de la surveillance là, de l'influenza aviaire ne sont plus toujours requis. Donc, bref, s'il y en a déjà sur un territoire, ça se peut qu'on dise, ben, débarrassez-vous simplement de la carcasse. Dans ce cas-là, ben, pour le faire de manière sécuritaire, on invite à porter des gants. On évite de toucher là, les carcasses à main nue. Et puis, la meilleure façon de procéder, là, on met des gants, on utilise un sac de plastique doublé, évidemment, là, pour le jeter le tout au déchet. Et bien évidemment, encore plus, on se lave les mains ensuite avec du savon ou de l'eau. Ou on indique qu'on peut utiliser aussi une solution hydroalcoolique dont la concentration est d'au moins 60 % d'alcool. Il y a une marche à suivre là, détaillée, disponible sur québec.ca. Je vais mettre les liens utiles dans l'article associé à cette nouvelle sous peu.
Peut-on attraper l'influenza aviaire par un contact avec des oiseaux sauvages.
Monsieur Labonté indique que les risques de transmission de l'influenza aviaire à l'humain par les oiseaux sauvages sont très faibles.
C'est une bonne nouvelle.
Oui, c'est ça, exactement. C'est une bonne nouvelle. On peut relaxer un peu. Mmh. Les contacts étroits sont rares et surviennent généralement à l'extérieur et non en milieu fermé. Un seul cas, selon lui, a été documenté en Amérique du Nord, chez une personne ayant eu des contacts étroits et soutenus avec de la volaille infectée, en milieu clos, donc un espace fermé ou confiné. Évidemment, certaines mesures de base sont recommandées pour réduire les risques, entre autres d'éviter de nourrir les oiseaux aquatiques qui ont tendance à former de grands rassemblements là, propices à la propagation de maladies. C'est assez rare ici qu'on nourrit les oiseaux sauvages. Ouais. En tout cas, ce n'est pas une pratique que j'ai pu observer.
Moi, je pense un peu.
Un petit peu, oui. Ouais. Ah, bon. On n'a pas, on a pas vu les mêmes choses, mais écoute, faut éviter de toucher ou de manipuler les oiseaux sauvages, particulièrement les oiseaux aquatiques comme les canards, les goélands, qui sont les réservoirs naturels du virus, dit-on. Si okay. le contact est inévitable, ben encore une fois, on utilise des sacs. Des gants et un sac en plastique doublé pour éviter aussi le contact avec le sang, les fluides et les excréments. C'est vraiment là où le virus là, est plus... le risque est plus grand de propagation. Et puis, faites à noter aussi, il est recommandé de maintenir une bonne hygiène aux mangeoires. C'est-à-dire là, les mangeoires et les bains qui peuvent devraient être nettoyés au moins une fois par semaine à l'eau et au savon. Oh. S'il y a des oiseaux qui présentent des signes de maladie ou des mortalités sont observées, on retire pour au moins 2 semaines les mangeoires et on les désinfecte en profondeur là, à l'aide d'eau et eau de Javel à 10%. Et évidemment, bon, on désinfecte tout ça loin de l'endroit où on consomme de la nourriture. Là.
Et la grande question, pour les chasseurs, est-ce qu'il y a des risques?
Eh bien, autre bonne nouvelle, si on veut, là, Monsieur Labonté assure que la chasse demeure une activité sécuritaire. Donc, messieurs et mesdames, vous pouvez continuer à pratiquer votre activité. Il n'y a aucune preuve scientifique qui dit que le virus puisse être transmis aux humains par la consommation de volailles, d'œufs ou de gibier de sauvagine, préparés et cuits correctement. C'est important ici. En fait, de ce que je comprends, il faut simplement appliquer les recommandations habituelles associées à la manipulation et à la consommation de toute viande de gibier. Ouais. C'est-à-dire toujours porter des gants à usage unique lorsqu'on dépouille ou éviscère un animal, bien cuire la viande de gibier, ne pas manipuler ou manger d'oiseaux malades ou morts de causes inconnues, évidemment. Ouais. Ne pas donner de viande ou d'abats crus aux animaux domestiques. Ah. Et encore une fois, là, ces recommandations plus détaillées sont disponibles sur le web et j'ajouterai le lien à l'article.
Merci beaucoup, Penelope.
Ça fait plaisir.
C'était vos informations locales présentées par La Voix du Large en collaboration avec l'initiative de journalisme local.